J'aimerais lire quelques textes en guise d'introduction avec vous. Tout d'abord, Matthieu chapitre 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts, leurs morts. » Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Toi, viens et suis-moi. » Matthieu 18, 38. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu 16, 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et enfin, Jean 12, verset 25, 26. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. La vie chrétienne, la vie de disciple de Jésus-Christ est une vie où l'on est appelé à suivre le Christ, où le Christ lui-même nous appelle à le suivre. Bien des passages des évangiles et ces versets étaient là pour souligner, pour attester largement que c'est là un axe principal du message de Jésus. Le suivre. Le suivre. Un disciple, par définition, est celui qui suit son maître. Si je suis chrétien, de disciple de Jésus-Christ, c'est parce que j'ai choisi de suivre Jésus pour maître. Et vous, ce matin, avez-vous choisi Jésus pour maître? Avez-vous choisi, avons-nous choisi de suivre le Christ? Oui, si je suis disciple, par définition, c'est parce que j'ai choisi de marcher à la suite de Jésus, mon Sauveur. Parler de la suivance du Christ, oui, le mot existe, frères et sœurs, il n'est pas commun, mais le mot existe. Parler de la suivance, c'est parler d'un vaste sujet, un sujet aux nombreuses facettes et aux nombreuses clés d'entrée. Et la clé d'entrée que j'ai choisie, que j'ai retenue ce matin pour le message, m'a été suggérée au moment de la lecture d'un passage de l'évangile de Matthieu. Il s'agit de ce passage où Pierre suit, du verbe suivre, Jésus après son arrestation. Je lis dans Matthieu 26, je vous invite à prendre ce texte avec moi, ce sera notre texte de référence. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 57 et 58. On y est? Vous êtes avec moi? Matthieu 26, 57, 58. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Pierre suivait Jésus de loin. Cette précision qui passe presque inaperçue a retenu mon attention et amorcé une réflexion qui m'a conduit au message de ce matin et que j'ai intitulé « De près ou de loin ?» Point d'interrogation. De près ou de loin ? Est-ce que je suis toujours du verbe « suivre Jésus » ? Est-ce que je le suis de près ou de loin ? À quelle distance, frères et sœurs, êtes-vous de Jésus ce matin? À quelle distance suis-je de Jésus? Quelle est la bonne distance pour le suivre? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Eh bien, moi, je me suis posé cette question, à quelle distance j'y étais? Et le Seigneur m'a interpellé sur ce texte. Et j'aimerais, dans un premier temps, nous puissions nous arrêter sur la suivance à distance. Que veut dire suivre Jésus de loin? de chrétiens sont loin de Jésus, suivent le Christ de loin, pensent que justement qu'à ce moment-là, ils peuvent cacher des choses parce qu'ils sont loin de Jésus. Posons comme a priori à notre réflexion, sans qu'il faille bien sûr un paramètre à dire à nouveau, mais c'est quelque chose d'important de savoir à quelle distance que je suis du Christ. La distance, frères et sœurs, entre le suiveur et la personne qui est suivie est un paramètre important. Et un paramètre qui détermine toute une série de choses. Par exemple, si je suis toujours du verbe suivre, quelqu'un dans une rue piétonne, bondée, ou alors quelqu'un dans un centre commercial à la veille de Noël, il vaut mieux que je reste près de cette personne si je ne veux pas la perdre de vue. Laisser de la distance s'installer entre moi et la personne que je suis est le meilleur moyen de la perdre de vue. Perdre sa trace et finir par ne plus pouvoir le suivre. Frères et sœurs, lorsque nous suivons de loin le Christ, nous nous écartons de quelque chose de meilleur que le Seigneur a prévu pour nous. Laissez de la distance s'installer entre nous et le Christ. Venons-en au sens dans cette relation avec le Christ. Que veut dire suivre Jésus de loin? Et dans la plupart des cas, et je commence par ça, dans la plupart des cas, suivre Jésus de loin, eh bien, c'est ne pas s'engager. Des frères et des sœurs qui ne veulent pas s'engager, ils suivent Jésus, oui, je suis Jésus, mais je suis de loin. Je ne veux pas m'en mêler. Je suis chrétien, je viens à l'église, je ne veux pas m'en mêler. Eh bien, ce sont des personnes qui refusent de s'engager. C'est le suivre en gardant une distance suffisante pour rester son propre maître. Une distance de sécurité. Nous gardons toujours cette distance de sécurité parce que nous ne voulons pas être dérangés par le Christ, parce que nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes chrétiens. Qui est concerné? Comment cela est-il possible de suivre Jésus à distance? Nous parlons ici de personnes qui suivent Jésus, non pas parce qu'elles sont disciples de Jésus, mais pour d'autres raisons. Ce sont par exemple des sympathisants, des personnes qui aiment les valeurs de l'Évangile, qui aiment la compagnie des chrétiens, qui ne s'engagent pas personnellement sur le terrain de la foi. Qui ne laissent ni le message de l'Évangile, ni le Christ toucher leur cœur pour rediriger leur vie. La distance qu'elles mettent entre elles et Jésus leur permet de garder toutes leurs cartes en main, leur permet de rester maître de leur vie. Nous parlons ici de toutes celles et ceux qui suivent Jésus par curiosité. Oui, la foule attire la foule. On entend dire que telle église est sympathique, conviviale, moderne, qui s'y produit toutes sortes de choses intéressantes. On entend parler de guérison, toutes sortes de choses extraordinaires. Alors on va s'approcher, mais pas trop. On s'approche, mais pas trop longtemps. Il y a tellement d'autres choses à voir pour satisfaire notre curiosité. On butine ainsi. On zappe d'événement en événement, de buzz en buzz, mais toujours à distance. Pour garder quoi? Pour garder la maîtrise des choses qui nous intéressent, pour garder la maîtrise de notre vie. Et puis il y a celles ici et ceux qui suivent à distance parce qu'ils suivent le Christ par intérêt. Les foules, par exemple, dans les évangiles, ont souvent suivi Jésus par curiosité, par intérêt pour ce qu'elles pouvaient recevoir de Jésus. Et les évangiles le soulignent à quelques reprises. J'ai pris l'exemple de Jean pour vous ce matin. Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Curiosité. Certaines personnes suivent le Christ par curiosité, pour voir, juste pour voir. Et au verset 24, quand la foule vit que ni Jésus ni les disciples étaient là, les gens montèrent eux-mêmes vers ses barques et vinrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous ne me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés par intérêt. » Des gens suivent le Christ par curiosité et par intérêt. Êtes-vous, sommes-nous de cela? Frères et sœurs, on peut suivre Jésus pour toutes sortes de raisons, mais beaucoup d'entre elles font suivre Jésus de loin. Ils refusent de s'engager. Oh oui, il y a une fête à l'église. Oh oui, je suis preneur, je suis d'accord, je suis partant. Il y a un repas, je suis aussi partant. Mais quand il s'agit de jeûner, de prier, de faire des études, de venir à l'étude, je suis le Christ de loin. Et il est facile, oui, très facile, dans cette suivance, de finir par croire que tout est bien, on s'illusionne, on se persuade que c'est suffisant, que la distance est bien suffisante. D'ailleurs, on aime bien le sentiment de sécurité que produit cette proximité relative au Christ. Moi aussi. Cette position à distance, il faut le dire, n'est pas du tout inconfortable. Bien au contraire, Jésus est pour nous, frères et sœurs, dans cette position, un grand homme. Un grand homme qui nous inspire. Un homme bon qui nous impressionne. Je ne sais pas si le Christ vous a impressionné. Moi, en tout cas, j'ai été impressionné par le Christ. Mais dans cette position à distance, Jésus n'est pas le sauveur et le Seigneur de notre vie. Parce que nous sommes trop loin. Sœurs, la vie chrétienne, elle est difficile, mais elle est belle. Je disais ça à ma fille, je me rappellerai toujours de cette phrase. Ma fille Julie, je lui disais tout le temps, la vie chrétienne est difficile, sachez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, mais elle est belle. Elle est belle. Parce que celui en qui nous croyons, celui en qui nous avons cru, ne nous laissera jamais tomber. Jamais. Jamais. Quand bien même je passerai par la mort, d'ailleurs, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans cette position, frères et sœurs, à distance, nous ne sommes pas des disciples du Christ lorsque nous sommes loin de lui, lorsque nous le suivons à distance. Comment connaître quelqu'un quand je ne le vois que de loin? Comment connaître quelqu'un que je ne peux pas entendre la voix, puisque je suis loin? Suivre à distance, dans tous les cas de figure que nous venons d'évoquer, c'est suivre sans connaître le maître, sans s'engager, sans se soumettre, sans obéir, et en faisant sa propre volonté et en vivant sa propre volonté. C'est suivre sans être véritablement un disciple de Christ. Si la suivance à distance concerne les sympathisants, mais elle concerne aussi les enfants de Dieu, elle concerne aussi les disciples du Christ que nous sommes. Bien d'entre nous, ce matin, ici même, nous sommes encore loin. Loin. Parce qu'on refuse de s'engager. Parce que nous regardons aux autres, parce que nous regardons à ce que les autres vont dire. Non, je m'inquiète surtout de ce que Dieu pense de moi, pas de ce que l'autre pense. Et je m'appuie sur ce texte, de cet exemple de Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Nous l'avons lu, je le relis. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin. Pierre le disciple. Le suivait de loin. Soulignons tout de même que Pierre suit à distance, mais au moins lui, il suit. Lui, il suit alors que tous les autres disciples, rappelez-vous, ont disparu de la circulation. Ils ont disparu de la carte. On retrouvera Jean au pied de la croix, mais on n'entend plus parler des autres. Alors c'est vrai qu'il est loin, mais il est là quand même. Il est là quand même. On va déjà valoriser ça. Les évangiles nous apportent une autre suivant sa distance, celle des femmes qui avaient accompagné Jésus. Là aussi, on a quelques textes. Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus, qui regardaient de loin. Frères et sœurs, autant que nous vivons, autant qu'il nous rapproche encore du Christ, autant où son retour est de plus en plus proche, comment pouvons-nous encore suivre à distance? Comment pouvons-nous refuser de nous engager? Combien de fois ai-je été dans cette position moi-même? Je ne suis pas là ce matin pour vous critiquer. Non, combien de fois personnellement, Seigneur, pardon, où j'ai été moi-même dans cette position? Frères et sœurs, combien de fois avons-nous laissé de la distance s'installer entre le Seigneur et nous? Il est si facile de traîner un petit peu et de laisser de la distance s'installer. Oui, j'aime pas ce qu'il m'a dit la semaine dernière, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'abandonne, je laisse de la distance. Il arrive que les disciples suivent son maître de loin. Mais il y a une différence. Il y a une différence fondamentale avec les premières situations que nous venons d'évoquer. La différence, c'est qu'ici, suivre à distance, ce n'est pas le signe de l'éloignement. Beaucoup, beaucoup d'entre nous refusent de s'engager. Et en refusant de s'engager, s'éloignent petit à petit du Seigneur. Dans ce cas de figure que nous évoquons présentement, celui de Pierre en particulier, ce n'est pas parce qu'il n'est pas disciple qu'il suit Jésus de loin, mais c'est en tant que disciple qu'il suit Jésus de loin. Alors, qu'est-ce qui peut mettre de la distance entre nous et le Seigneur? Qu'est-ce qui peut mettre de la distance entre nous et le Seigneur? Pour Pierre, dans les évangiles, c'est sans doute de la crainte. En grande partie, certainement, de la crainte des hommes, la crainte de sa propre vie. On peut noter qu'il y a aussi certainement de la curiosité, puisque le texte le dit, à un moment donné, Pierre voulait voir comment cela finirait. La curiosité. Et bien souvent, nous sommes comme Pierre. Nous sommes curieux d'aller voir ce qui se passe, mais nous ne voulons pas nous engager. Je suis curieux de venir voir ce que David propose, le pasteur de l'église, mais je ne veux pas m'engager. Comme ça, s'il se plante, j'y étais, mais je n'ai pas pris part. Nous avons alors une relation, frères et sœurs, floue. Quoi qu'il en soit, il n'est pas toujours facile d'être associé à Jésus. Je vous l'accorde, je le sais. Il n'est pas du tout facile d'être disciple. Il n'est pas du tout facile de dire que je suis chrétien. Mais il est honorable de dire que je suis chrétien, que j'appartiens au Christ. Nous le savons, bien sûr, on peut être moqué, méprisé, rejeté, persécuté, même tué. Et pour se prémunir contre cela, il est plus parfois facile, ou du moins plus facile, en restant de côté, en restant sur le bas-côté, de garder cette certaine distance, de ne pas trop sortir le drapeau, d'entretenir un certain flou sur nos convictions. Et nous avons alors une relation au Seigneur qui s'apparente à celle d'un ado qui a un peu honte de ses parents qui l'emmènent à l'école et qui marche plusieurs mètres derrière eux. Vous connaissez ça? Pourquoi? Pour ne pas que ses amis ne puissent pas l'identifier à leurs parents. Maman, on va mener à l'école. Ta mère t'emmène à l'école, moi je vais tout seul. Oui, mais l'influence du groupe a causé beaucoup de pertes de beaucoup de jeunes. L'influence du groupe. Ils marchent à quelques mètres derrière eux et ne vont surtout pas s'identifier à eux. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que mes voisins, mes collègues de travail, mes amis, ceux qui me voient vivre jour après jour, savent-ils que je suis disciple de Jésus-Christ? Savent-ils que je suis responsable du club de jeunes? Savent-ils que je fais la présidence du culte? Savent-ils que je fais partie de la louange? Le savent-ils? J'ai connu beaucoup de chrétiens qui cachent leur Bible en sortant chez eux et arrivés devant l'église, ils sont dans leur sac. Ou bien, ai-je mis assez de distance entre le Seigneur et moi pour que cela ne se voie pas trop et peut-être même pas du tout? Parmi les raisons possibles à la distance qui peut s'installer entre le disciple et son maître, il y a aussi et surtout le péché que nous tolérons dans nos vies, le péché que nous aimons dans nos vies. Quelle souffrance. En tolérant le péché dans nos vies, nous choisissons de mettre de la distance entre nous et le Seigneur. Sa proximité, la proximité du Seigneur, elle dévoile nos ténèbres. Et quand nous choisissons le compromis du péché dans notre vie, de fait, nous nous éloignons du Seigneur afin que sa lumière ne vienne pas trop dissiper trop vite notre péché et nos ténèbres. Il y a aussi ce qui met de la distance entre le Seigneur et nous, il y a tout ce que nous laissons s'immiscer entre le Seigneur et nous. Tout ce qui, d'une certaine manière, va prendre sa place, va capturer notre regard, qui fait que nous ne regardons plus au Seigneur, mais nous regardons à ce qui s'est interposé, nous regardons aux circonstances, nous regardons à nos loisirs, plutôt que de rester les yeux fixés sur le Christ. Ce sont toutes les mauvaises priorités de notre vie, tout ce qui fait barrage et cache la vue du Seigneur, cache la vue de celui qui nous a appelés à le suivre. Oui, le Seigneur te dit ce matin, toi et moi, viens, laisse tout ce que tu as et suis-moi. Suis-moi. Loin du Seigneur, frères et sœurs, nous nous refroidissons. Vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. C'est de l'expérience vécue. Loin du Seigneur, nous nous refroidissons. Nous perdons notre zen. Nous glissons vers une léthargie spirituelle. Loin du Seigneur, nous n'entendons plus sa voix. Peut-être même plus du tout. Peut-être même que nous ne l'écoutons plus. Et combien? Oui, combien il est facile à ce moment-là, lorsque nous sommes éloignés, de chuter. De chuter. Loin du Seigneur, nous le perdons de vue et nous courons le risque de nous perdre nous-mêmes. Loin du Seigneur, nous sommes vulnérables. Nous sommes si vulnérables que nous pouvons parfois ressembler à Pierre qui a renié son Seigneur. Pourtant, bon nombre de personnes ont critiqué le Pierre qui a renié son Seigneur. Bon nombre ont critiqué le Pierre qui n'a pas su marcher sur l'eau. Mais j'aimerais bien, frères et sœurs, faire deux pas sur l'eau dans la mer de ma commune au Souffleur en Guadeloupe. J'aimerais aller marcher deux pas sur l'eau. Pourtant, Pierre l'a fait. Pierre l'a fait. Oui, nous sommes si vulnérables, si vulnérables. Non, suivre le Seigneur, frères et sœurs, à distance, n'est pas une option. Quelqu'un disait un jour qu'on ne peut pas, en tout cas pas très longtemps, suivre Jésus de loin sans que cela affecte notre relation avec lui. Un jour ou l'autre, si nous ne reprenons pas notre position et notre place que le Seigneur nous a donnée, eh bien, nous allons perdre notre position. Et rappelez-vous, frères et sœurs, même étant assis là où vous êtes et debout là où je suis, si nous avons le Christ, si nous avons accepté le Christ, malgré nous sommes ici, mais nous avons une position spirituelle parce que nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Ça, c'est formidable. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Quand je marche dans ses voies, frères et sœurs, rien ne peut m'ébranler. Rien. J'aimerais simplement souligner ici, et en plus du sens de l'engagement, qui est évident que suivre Jésus de près, maintenant qu'il n'est plus présent, bien sûr physiquement, mais le suivre de près aujourd'hui dans mon Église, c'est faire sa volonté, c'est mettre en pratique les paroles que nous entendons et que nous recevons de lui. Et pour cela, bien évidemment, je dois connaître ses paroles. Je dois lire sa parole, je dois la méditer et je dois m'en nourrir régulièrement. Quelle est la dernière fois que vous êtes venu à une étude biblique? Point d'interrogation. Oui, c'est avant tout suivre de la proximité avec le Seigneur. C'est quand je marche dans ses voies que je suis proche de lui. C'est quand j'obéis à sa volonté que je suis proche de lui. C'est quand je me soumets à ses commandements que je suis proche de lui. C'est quand je me mets sa parole en pratique. Quand je mets sa parole en pratique que je suis proche de lui. Nous connaissons tous l'importance que l'Évangile nous dit de bâtir sa maison sur le roc. Bâtissons sur le roc pour que rien ne puisse venir nous ébranler. La toiture partira parce que les péchés seront là. Nous sommes humains, mais la fondation sur le Christ restera toujours solide et ne bougera point. Il est possible que vous suivez, frères et sœurs, ce matin, je vais conclure. À quelle distance? À quelle distance se trouve Jésus de vous ce matin? Je ne dis pas vous, mais à quelle distance se trouve Jésus de vous ce matin? Et lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous poser cette question: qui a lâché la main de l'autre? Nous pleurnichons, nous murmurons, nous nous focalisons sur les circonstances et nous oublions que nous avons dit un jour au Seigneur, je te donne toute ma vie, Seigneur. Mais si je lui donne toute ma vie, quand tout va bien, je dois pouvoir résister à cela quand tout va mal et lui dire, Seigneur, prends tout. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Puisque c'est lui qui a les paroles de la vie. À quelle distance se trouve Jésus de vous ce matin? Êtes-vous proche de lui ou êtes-vous loin de lui? Il est possible que vous suiviez Jésus à distance et que vous veniez de le réaliser ce matin. Alors dites-moi, pourquoi ne pas saisir cette main tendue? Cette main qui vous invite à vous approcher de lui pour le suivre de beaucoup plus près? Peut-être aussi êtes-vous un disciple de Jésus qui s'est éloigné et que le Seigneur a interpellé ce matin. Pourquoi ne pas revenir? Pourquoi ne pas revenir maintenant dans la proximité et l'intimité du Seigneur? Il suffit pour cela de reconnaître que nous nous sommes éloignés. La Bible dit, David disait au Seigneur, Seigneur, tu ne veux rien d'autre qu'un cœur brisé et un cœur brisé et contrit. David disait aussi, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je veux croire que David était dans une situation très difficile et très compliquée, devant son péché, devant tout ce qu'il n'a pas dit. Et lorsqu'il est venu, il a compris les choses, il a dit au Seigneur, ce que tu veux, c'est un cœur brisé et contrit. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. C'est simple, frères et sœurs, c'est très simple. C'est de reconnaître, c'est de venir à Christ ce matin pour reconnaître que nous sommes éloignés. Pierre qui a renié son Seigneur. Et c'est un bel exemple, l'exemple de Pierre. Et frères et sœurs, c'est ce même Pierre que le Seigneur va venir chercher. Celui qui l'a renié. Dieu n'a pas tenu cela comme quelque chose pour pouvoir le briser. Mais non, Dieu viendra le chercher à nouveau pour le ministère après la résurrection au chapitre 21 de l'évangile de Jean. À partir du verset 19, Jésus va lui dire, est-ce qu'il va changer sa vie? Jésus va lui dire, suis-moi. Suis-moi. Rappelez-vous avant cet épisode, dans le contexte, Jésus avait dit à Pierre, trois fois m'aimes-tu? Les deux premières fois, oui, Seigneur, mais je t'aime. Et la troisième fois, attristé, qu'est-ce qu'il répond? Seigneur, tu sais tout. Mais tu sais tout. Et là, le Seigneur a dit, ok, c'est bien. Seigneur, tu sais tout. Je ne t'aime pas comme le monde aime. Je agapeo. Je agapeo. Ok, maintenant tu es prêt. Et le Seigneur nous le dit ce matin. Viens, suis-moi. C'est extraordinaire. Quelle grâce, suis-moi. C'est la grâce du bon berger qui va chercher sa brebis égarée et qui la cherche et qui la trouve. Les hommes cherchent mais ne trouvent pas. Mais le Seigneur nous cherche et nous trouve. C'est la grâce de notre Seigneur qui ne cesse de nous appeler à lui. Que nous soyons loin parce que nous ne sommes pas encore disciples ou que nous sommes éloignés parce que nous avons péché, nous avons quelque chose dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit ce matin, mais quelle que soit la chose que tu as dans ta vie, viens et suis-moi. C'est tout ce que je te demande. Viens et suis-moi. Laisse les gens enterrer leurs morts. Toi, viens, suis-moi. Et ce matin, le Seigneur te dit, laisse tout. Viens et suis-moi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. À quelle distance êtes-vous du Seigneur ce matin? Peut-être êtes-vous loin? Que le Seigneur vous attire à lui. Peut-être êtes-vous proche, que le Seigneur soit béni et qu'il vous consolide dans sa proximité et qu'il vous garde dans le creux de sa main. Amen. Amen. Je vous invite à un instant de silence, s'il vous plaît.